La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue sur RFI, merci d'être à l'écoute de votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes témoins et acteurs de l'histoire. Une histoire dont l'enseignement fait continuellement débat en France. Après le débat sur l'identité nationale, les politiques ont créé la question du récit national. Et d'ailleurs, lors des dernières présidentielles, tous les candidats avaient un avis très précis sur l'écriture des manuels d'histoire pour les élèves. Mais qu'est-ce que les historiennes et les historiens ont à nous dire sur la question ? Puisque ce sont eux qui écrivent l'histoire dont s'inspirent justement les programmes scolaires.
Le livre dont j'ai parlé un petit peu, l'histoire mondiale de la France, a comme exergue, en fait c'est plus qu'une exergue, c'est une sorte de mèche qui a mis le feu aux poudres. Cette phrase de Michelet qui dit « ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France ». Ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France. C'est le jeune Michelet. 1831, il n'est même pas sûr d'être historien à ce moment-là. Il enseigne plutôt la philosophie ou la philosophie de l'histoire, comme maître de conférence à l'école normale. Et il écrit une histoire universelle avant d'écrire l'histoire de la France.
La voix de Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, enregistrée au Centre d'Histoire Sociale par RFI à l'occasion de la journée d'études consacrée au récit roman national, enjeux et perspectives de l'histoire de l'enseignement en France. En tant que maître d'œuvre d'une histoire mondiale de la France, Patrick Boucheron y participait à l'invitation de Patricia Legris, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Université Rennes 2. Bonjour Patricia.
Bonjour Valérie.
Et vous n'étiez pas la seule à organiser cette journée en juin dernier. Bonjour. Bonjour Sébastien Ledoux.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire et enseignant à Sciences Po à Paris. Alors précisons tout de suite que l'histoire mondiale de la France, dirigée par Patrick Boucheron, ressuscite une histoire par date, sauf que chaque événement est inscrit dans son contexte mondial et que c'est un best-seller. Plus de 100 000 exemplaires vendus, mais aussi des polémiques à n'en plus finir entre historiens, sans oublier le grand moment de la campagne pour les présidentielles, sorte de climax dans des débats, parfois d'une grande violence. Généralement, de façon générale, quelle réflexion cela vous a inspiré, Patricia Legris ?
Ce que ça m'a inspiré, c'est qu'on avait l'impression d'un recyclage, c'est-à-dire que ce type de polémique autour de la façon dont on pense l'histoire de France, la façon dont on va penser la France à l'échelle nationale, européenne et mondiale n'est pas récente. C'est un débat, comme je disais, récurrent, qu'on a déjà pu observer à de multiples reprises. Je pense notamment dans les années 1970, quand il a été question d'enseigner au collège, à travers ce qu'on a appelé les programmes ABI, du nom du ministre de l'Éducation de l'époque, une histoire plus thématique qui portait sur des éléments sociaux. Donc on sortait du politique et ça avait déclenché également une polémique dans ce sens.
Donc ce n'est pas nouveau. Sébastien Ledoux, même question.
Je crois qu'effectivement, on a assisté l'an dernier à encore une nouvelle séquence sur cette question dite controversée de l'enseignement scolaire de l'histoire. Et en même temps, avec un nouveau palier, on a vraiment eu l'impression, avec le discours de François Fillon à la fin du mois d'août 2016, qu'on était dans un passage obligé des candidats à l'élection présidentielle qui devaient, ou en tout cas qui se sentaient obligés, de parler de cette question de l'enseignement de l'histoire, et évidemment avec des visées très électoralistes et pas du tout scientifiques.
Les enfants n'apprennent plus rien à l'école, ils ne connaissent plus rien à l'histoire de France. D'ailleurs, on leur apprend même plus les dates. Eh bien, figurez-vous, vous l'avez entendu, que ce discours ne date pas d'aujourd'hui.
Les enfants ne connaissent plus l'histoire de France. C'est le cri d'alarme lancé par plusieurs historiens, mais aussi par des professeurs et des hommes politiques, du RPR et du PS. Raison de cette inquiétude, les nouvelles méthodes qui dispensent les enfants d'apprendre les dates et les événements. Résultat, une extrême confusion dans les esprits des élèves, des résultats affligeants.
Richelieu, c'était un empereur avec Louis XIV, je crois.
Qui a vécu le premier ? C'est Louis XIV ou Napoléon ?
Napoléon.
Nos enfants ne font plus d'histoire. Il faut qu'on le sache et qu'on le répète. L'histoire est une matière d'éveil confiée à la discrétion des maîtres. Certains en font, certains n'en font pas. En tout cas, il est recommandé par les programmes de ne pas suivre le cadre, de faire de l'histoire au hasard. Un jour, on traite un sujet du 19e siècle, un jour, on remonte aux Mérovingiens. Comment voulez-vous que les enfants aient un sens de la chronologie? On ne peut pas comprendre l'histoire si on ne sait pas la chronologie, si on ne sait pas tout simplement que le 17e siècle succède au 16e.
Nos enfants ne font plus d'histoire, nous dit Alain Decaux. Alors grand prêtre de la messe télévisuelle avec son émission devenue culte, Alain Decaux raconte. Et c'est lui qui a mis les pieds dans le plat, Sébastien Ledoux. C'était le 20 octobre 1979 dans le Figaro. Est-ce que c'est l'origine de la polémique justement ?
L'origine, enfin, comme disait Patricia, l'origine effectivement c'est toute la réforme Habille et puis toute la mise en place des ateliers à l'école primaire à l'époque dans les années 70 où on essaye de changer, de faire évoluer la transmission scolaire de l'histoire et on se rend compte qu'il y a une ligne conservatrice qui va durer et qui dure encore jusqu'à nos jours, hein, depuis 40 ans, qui s'est insurgée contre ça et qui a vu une sorte de disparition à la fois de l'histoire nationale, de l'enseignement de l'histoire nationale, mais aussi, je tiens à le rappeler, dans un contexte où on a peur, justement, de la disparition de la nation. C'est aussi le moment où Pierre Nora lance ses fameux lieux de mémoire pour reconstruire une mémoire collective de la nation. On est sur cette configuration-là où certains estiment qu'on est dans une crise de l'histoire, dans une crise de l'enseignement de l'histoire et dans une crise de l'identité nationale, alors qu'il me semble que c'est une reconfiguration plutôt.
Patricia Legris, vous qualifiez donc ces années 70 contre lesquelles Alain Decaux s'insurge, notamment comme des années de rupture, et à contrario, les années qui suivent, les années 80, comme des années de restauration. Expliquez-nous ça.
Alors en effet, les années 70, comme l'expliquait Sébastien, sont des années de rupture avec notamment les activités d'éveil que l'on va essayer de pratiquer, que ce soit à l'école, mais aussi en classe de 6e et de 5e, c'est-à-dire que théoriquement, il n'y avait plus de programme. L'enseignant partait finalement de l'existant, du vécu des élèves pour leur faire enseigner l'histoire et la géographie. Donc il devait par exemple faire des enquêtes orales, faire des visites également pour apprendre l'histoire. Donc on change complètement les modalités de transmission de l'histoire, effectivement. On sort de cette histoire chronologique qui est avant tout centrée sur l'échelle nationale jusque dans les années 1970. Donc là, il y a une véritable rupture. Soit dit en passant, je tenais à quand même préciser que au moment où on enseignait encore cette histoire nationale. Dans les années 1960, on a une historienne qui s'appelle Suzanne Citron, qui est encore de ce monde, qui en 1969 avait fait une enquête auprès d'élèves de seconde, qui avaient donc reçu cet enseignement très chronologique pour voir quelles étaient leurs connaissances en histoire, et notamment en ce qui concernait le lexique propre à l'histoire et aussi les dates. Et il ressort de cette enquête que les élèves, finalement, ne maîtrisaient pas du tout cela. Il y avait une grande confusion dans leur esprit. Donc ce que dit Alain Decaux au sujet des activités d'éveil aurait pu se dire également de l'enseignement de l'histoire très chronologique. Pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, les années 80 sont des années de restructuration, en quelque sorte, de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire scolaire cesse de vouloir devenir la reine des sciences sociales à l'école. Elle va plus se retrancher sur son précaré, mais renouveler son questionnement, notamment par l'insertion de tout ce qui va être question mémorielle.
Alors très concrètement, qui écrit les manuels d'histoire ?
Alors les manuels d'histoire, ce sont des traductions des programmes d'histoire. Les programmes d'histoire en France, ce sont les textes officiels, c'est la norme officielle fixée par le ministère de l'Éducation nationale. Les manuels n'en sont qu'une traduction qui fixe la norme officielle, qui elle est dictée par le ministère de l'Éducation nationale. Donc les manuels vont être finalement la traduction de ces programmes qui vont être écrits par des inspecteurs, mais également par des enseignants, très rarement par des historiens, notamment à partir des années 80.
Alors Sébastien Ledoux, comment est née cette fameuse expression de roman national ou récit national ? Et puis d'ailleurs, est-ce que ça ne veut pas dire la même chose ?
Alors l'expression roman national, on la trouve, et c'est ça qui est intéressant, chez un sociologue qui s'appelle Paul Lyonnais. On est au début des années 1990, en 1992, il publie un livre sur l'antiracisme, sur les luttes antiracistes, et donc en fait il va condamner, lui, et s'insurger contre tout ce discours qui naît dans les années 1980, qui tend à insister sur le rôle de la France dans certains crimes, et les crimes coloniaux. Et donc on a une réaction effectivement de ce sociologue-là, mais aussi, on le verra après, de bien d'autres personnes, pour dire qu'on porte atteinte à notre roman national. Et donc là, on est effectivement dans non seulement la question de la nostalgie qui a été évoquée tout à l'heure, hein, pour dire, ben oui, on n'apprend plus l'histoire comme avant, c'est catastrophique, etc. Mais on est aussi dans une autre chose qu'on appellera dans les années 2000 la repentance, c'est-à-dire, attention, ne touchez pas, en gros, à la France et à l'amour qu'on peut porter à la France en l'attaquant et en la dénonçant dans les crimes qu'elle a pu commettre auparavant. Et donc, ce terme de roman national naît à partir de là pour dire, ne touchez pas, en gros, à notre patrimoine national.
Je vous propose de retrouver la voix de Patrick Boucheron. Il s'interroge à votre invitation sur cette question du récit historique à partir de l'expérience de son livre collectif « Histoire mondiale de la France ».
La proposition de l'histoire mondiale de la France, c'est juste de dire qu'une histoire par date n'est pas nécessairement réactionnaire. La question est quand même sérieuse, parce que, au fond, quand on y réfléchit et quand on y réfléchit sérieusement, on ne voit pas bien logiquement, épistémologiquement, ce qu'il peut y avoir de commun entre une remise en cause de l'histoire chronologique et une contestation, par exemple, de la grandeur de la France. Après tout, on pourrait très bien imaginer un enseignement patriotique qui ne soit pas organisé par date. On pourrait très bien imaginer aussi que l'histoire mondiale soit au contraire entièrement chroniquée par une chronologie qui serait elle-même orientée selon la flèche du temps. Donc tout cela, au fond, ne tient pas, mais c'est cet empilement qu'on a, au fond, à saisir.
Patrick Boucheron prend le contre-pied des critiques qui lui sont faites. La chronologie n'est pas forcément réactionnaire, nous dit-il. Alors le livre « Histoire mondiale de la France », est-ce qu'il en fait la preuve et pourquoi, Sébastien Ledoux?
Ah oui, il en fait la preuve, effectivement. Je pense que c'est un moment important, ce moment, ce qu'on peut appeler un moment Boucheron, quelque part, hein, sur la scène des historiens et à la fois du rôle des historiens dans l'espace de la société. Il a cherché à distinguer ce qu'on appelle l'histoire chronologique et donc une histoire classique qui serait là pour défendre une identité de la France et la grandeur de la France. Et lui, il veut découpler ça en disant « Mais non, on peut très bien faire l'histoire chronologique sans forcément en faire une grandeur nationale ou rendre hommage à la grandeur de la France. » Et donc, c'est prendre à revers, justement, des éditorialistes ou des dits intellectuels qui disent « Voilà, ce sont des Boucheron est un fossoyeur de l'identité nationale. » Alors qu'effectivement, il fait une histoire, on va dire, renouvelée de la France, pour dire une chose aussi très importante qui est finalement l'identité de l'histoire nationale, elle s'est construite aussi toujours en rapport avec le monde, toujours. Et donc il y a toujours eu des liens avec le monde.
Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que la question du récit polyphonique se pose dans les livres de Patrick Boucheron. L'auteur rappelle qu'avant Histoire mondiale de la France, il a dirigé Histoire mondiale du XVe siècle.
La question s'est posée à des livres que j'avais dirigés deux fois. Une fois avec l'histoire du monde au XVe siècle, que j'avais dirigé en 2009 aux éditions Fayard, et une autre fois avec l'histoire mondiale de la France, cette année, en janvier 2017. Et à faire à chaud une comparaison à l'improviser devant vous, des deux réceptions de ces deux livres assez différents. Le premier était quand même plus savant et plus exigeant, mais au fond, il était sur les mêmes ressorts dramatiques, c'est-à-dire la polyphonie, une histoire qui mettait à jour une discontinuité, qui défaisait le grand récit des grandes découvertes, qui proposait de manière plurivoque, avec un recours à la chronologie d'ailleurs, une manière non pas d'histoire connectée mais d'histoire à connecter par le lecteur lui-même qui ne se trouvait pas dévalant une pente fatale d'un récit qui le menait inévitablement d'un point haut à un point bas mais qui pouvait monter et descendre et d'une certaine manière se faire son propre chemin dans un livre qu'il traversait de manière buissonnière. Ça, c'est ce qu'il y a de commun entre ces deux livres. Bon. Mais l'un sort en 2009 et l'autre en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui peut être pour notre objet, c'est-à-dire le rapport entre l'histoire telle qu'elle s'expérimente dans les livres et l'histoire telle qu'elle peut se transmettre dans les classes? Qu'est-ce que la comparaison entre ces deux expériences peut nous amener?
C'est intéressant, que s'est-il passé entre 2009 et 2017, Patricia Legris?
Ce qui s'est passé entre-temps, c'est tous ces débats autour de l'identité nationale, autour de la façon dont on pense la France, donc c'est-à-dire qui met-on dans cette nation France ? Ce qui rejoint bien évidemment des préoccupations intellectuelles qui touchent les historiens notamment. Hein. Comment penser l'histoire de France ? Qui met-on dedans ? Comment la raconter ? Et pour rejoindre ce qui se disait tout à l'heure concernant la chronologie, ce qui est intéressant à travers ce que propose l'équipe conduite par Patrick Boucheron, mais également d'autres historiens, c'est qu'on peut faire de la chronologie, mais de manière critique. C'est-à-dire qu'on peut déconstruire finalement une date, expliquer vraiment pédagogiquement ce qui s'est passé, et on peut finalement montrer ce qui s'est passé en ouvrant les frontières, en montrant en effet les liens qui existent entre l'échelle nationale et d'autres espaces du monde, pour montrer finalement il y a des interconnexions entre la France et d'autres territoires.
Sébastien Ledoux, donc les politiques s'en sont mêlées, mais il y a un nouveau facteur, les nouvelles technologies aujourd'hui.
Oui, c'est vraiment un point essentiel aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement tous les débats, et on le remarque d'ailleurs pour n'importe quel débat, hein, n'importe quelle polémique, tous les débats sont suivis de près par les réseaux sociaux, et donc pour cette question de l'enseignement scolaire de l'histoire, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y a eu un fort investissement dans les réseaux sociaux de cette question-là, et y compris justement par ce qu'on appelle la fachosphère. La fachosphère, c'est quoi ? C'est justement des internautes qui sont plutôt des militants d'extrême droite ou de droite extrême et qui s'emparent de questions sur les réseaux sociaux pour évidemment influer et influencer des comportements. Et là, on ne peut plus les ignorer. On ne peut plus les ignorer depuis l'élection de Trump, etc. Donc, c'est vraiment des leaders d'opinion maintenant. Je veux dire que les réseaux sociaux peuvent être et peuvent devenir des leaders d'opinion. Donc, la question aussi, elle est comment transmettre une histoire nationale ouverte, je dirais renouvelée, par le biais aussi de ces réseaux sociaux. Parce que là, on a l'exemple du livre de Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France, 100 000 exemplaires vendus, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais effectivement, il faut aussi que l'historien, finalement, aille sur ces réseaux sociaux-là pour renouveler l'histoire nationale.
Est-ce que le succès éditorial, est-ce qu'un best-seller est forcément antinomique avec une écriture sérieuse de l'histoire ? Est-ce que la sphère académique ne boude pas ceux qui ont des succès éditoriaux, justement ?
Ça dépend. Je dirais que c'est plus complexe que ça. En effet, on a certains historiens qui se retranchent derrière une tour d'ivoire, hein, en disant que l'histoire scientifique qui doit répondre donc à des critères de scientificité très grands ne peut pas être forcément diffusée auprès d'un grand public. Et puis d'autres, quand même, je trouve de plus en plus nombreux, qui cherchent justement à vulgariser les savoirs, à les transmettre de manière pédagogique et donc à s'adresser à un public de plus en plus étendu qui n'est pas forcément un public d'historiens au sens strict du terme.
En tout cas, en ce qui concerne l'histoire mondiale de la France, Pierre Nora, autre grand historien, voilà, a attaqué le principe même des dates chronologiques en expliquant que parfois c'était sérieux et que parfois c'était extrêmement léger.
Oui, ben là, je pense qu'on a aussi des querelles d'ego hein, qui se jouent là, de notoriété et de concurrence qui sont finalement pas très intéressantes. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est le parti pris de dire voilà, on va faire un récit dit entraînant, c'est l'expression de Patrick Boucheron la plupart du temps. Faisons des récits entraînants de la part des historiens, justement, ne restons pas dans notre tour d'ivoire, parce qu'il ne faut surtout pas laisser la place à d'autres personnes qui ne sont pas des historiens justement professionnels, qui écrivent et qui vendent par millions d'exemplaires, hein, Laurent Deutsch et compagnie, et qui écrivent une certaine histoire de la France qui correspond à une certaine identité, on va dire, quand même un peu repliée sur elle-même.
L'histoire à l'école, c'est à suivre dans la marche du monde. Alors attention, si je vous dis 1685.
Louis Révocation de l'édit de Nantes.
Oui. Révocation de l'édit de tolérance signé à Nantes. Bravo Sébastien.
Révision des dates d'importance du 15e au 18e siècle. Falipou, 1572.
Le massacre de Saint-Barthélemy.
1610.
Mort de Henri IV.
1648.
Traité de Westphalie, l'Alsace devient française.
Bien. Allez, passons à un autre. Jala, 1492.
Christophe Colomb découvre l'Amérique.
1515.
François Ier, vainqueur à Marignan.
Oui, c'est pas mal, mais on t'a soufflé. Des Mousseaux, 1685. Eh bien, Des Mousseaux, tu m'entends ? Des Mousseaux, debout, s'il te plaît. Des Mousseaux, c'est par ici que ça se passe. Regarde-moi. Mais enfin, Des Mousseaux, tu es sourd ou quoi ? Tu n'as pas entendu ma question ?
La marche du monde.
C'est la suite de la Marche du Monde sur RFI. Nous donnons la parole aux historiens afin qu'ils puissent répondre aux polémiques autour de l'écriture de l'histoire. Polémiques récurrentes, me direz-vous, mais polémiques de plus en plus violentes, y compris dans la sphère académique. Il faut dire que lors de la dernière campagne présidentielle, les candidats n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère.
Je propose de revoir l'enseignement de l'histoire à l'école primaire, afin que les maîtres ne soient plus obligés d'apprendre aux enfants, comme l'indique cette instruction de l'éducation nationale que je vais citer, à comprendre que le passé est source d'interrogations. Faire douter de notre histoire, cette instruction est honteuse. Quand les thèses révisionnistes prolifèrent sur Internet, à l'heure où notre nation est en quête de sens, qu'elle est menacée par des barbares, est-ce qu'il faut vraiment que l'école renonce à faire le récit de la nation ? Si je suis élu président de la République, je demanderai à 3 académiciens de s'entourer des meilleurs avis pour réécrire les programmes d'histoire. Avec l'idée de les concevoir comme un récit national. Le récit national, c'est une histoire faite d'hommes, de femmes, de symboles, de lieux, de monuments, d'événements qui trouvent un sens, une signification dans l'édification progressive de la civilisation singulière de la France.
Nous sommes en 2016, le 28 août exactement, l'ancien Premier ministre candidat à la primaire de droite, François Fillon, propose des pistes pour retrouver la fierté d'être français, ce qui passe notamment, selon lui, par revoir l'enseignement de l'histoire à l'école primaire, afin que les maîtres ne soient plus obligés, dit-il, d'apprendre aux enfants à comprendre que le passé est source d'interrogations. Faire douter de notre histoire, cette instruction est honteuse, affirme-t-il. Et c'est à la suite de ce discours que nos deux invités, Patricia Legris et Sébastien Ledoux, respectivement spécialiste de l'histoire, de l'éducation et des manuels d'histoire, c'est vous Patricia, et spécialiste de l'enseignement de l'histoire et des politiques de mémoire, c'est vous Sébastien, ont décidé d'organiser une grande journée de réflexion autour des enjeux et perspectives de l'enseignement de l'histoire en France. Alors on ne va pas se refaire le quiz des dates historiques, ça c'est fait, mais plutôt un info, un tox autour de l'histoire, de l'enseignement de l'histoire. Première idée reçue, les élèves ne connaissent plus les dates alors qu'ils les connaissaient avant. Un faux ou un tox, Patricia Legris ?
C'est complètement faux.
Pourquoi ?
Déjà avant, bon nombre d'élèves ne maîtrisaient pas les dates, surtout ne les comprenaient pas, puisque c'était un enseignement avant tout qui faisait appel à la mémoire et non pas à l'esprit critique, à la compréhension, ce que dénonce François Fillon dans cet extrait.
Et on apprenait par cœur, on ne savait pas quoi.
Voilà, c'est ça. Sans de naissance, vraiment, donc 1515, Marignan. Mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment à Marignan ? On ne sait pas ce que c'est.
Seconde idée reçue, avant, on apprenait la vraie histoire de France. Les manuels racontaient le roman national de la France. Un faux ou un tox, Sébastien Ledoux ?
Le problème, c'est effectivement cette vision un peu fétichiste de l'histoire nationale. C'est-à-dire qu'en fait, là, on s'est barricadé, je dirais, et certains hommes politiques comme François Fillon et d'autres, et certains éditorialistes, passent leur temps depuis des années à essayer de nous faire comprendre que l'histoire nationale serait uniquement là et présente et à incarner à travers des fétiches. Alors, c'est nos ancêtres les Gaulois, c'est Louis XIV, c'est Napoléon, c'est des lieux. L'histoire nationale, elle ne doit pas s'apprendre comme ça, et de toute façon, elle ne s'apprend pas comme ça. Je pense que la question du roman national, c'est une question éminemment politique, et qu'on est en train de construire tout simplement la société de demain. Donc arrêtons de réfléchir en termes de fétiches, et essayons de traduire justement l'histoire nationale en termes de problématiques, plutôt.
Alors avant d'aller plus loin justement et d'aborder la question du contenu des manuels d'histoire, je vous propose de retrouver Patrick Boucheron, professeur au Collège de France. Il a dirigé Histoire mondiale de la France aux éditions du Seuil, et il propose une analyse des critiques récurrentes sur l'écriture de l'histoire.
Les critiques, au fond, on voit bien qu'elles empilent en une série de confusions différentes oppositions. L'histoire chronologique contre celle qui fait oublier les dates, l'histoire de France contre ceux qui ne l'aiment pas assez, l'histoire des grands hommes contre ceux qui veulent la peupler de personnages inconvenants, les femmes, les immigrés, etc. Et enfin, l'histoire des grandes batailles et des hauts faits de la nation face à ceux qui veulent lui opposer la concurrence des mémoires. En gros, on a ces quatre éléments qui s'empilent et se superposent. Mais il y en a un cinquième et un sixième. Le cinquième, c'est histoire populaire contre histoire savante. Et le fait que Alain Decaux, évidemment, soit le premier à mettre le feu aux poudres, ou plus exactement qu'on le fasse jouer comme l'artificier en chef, parce qu'à ce moment-là, il y avait des gens dans les coulisses. Maintenant, je ne suis même pas sûr qu'il y ait des gens dans les coulisses. C'est ça qui est terrible. Mais la première question à se poser, c'est histoire populaire vs histoire savante.
Le 31 juillet 1914, à 21h40, Jean Jaurès s'est attablé au café du Croissant à l'angle de la rue Montmartre. Il fait très chaud, il fait très lourd, une des journées les plus chaudes de l'année. Alors au café du Croissant, on a laissé ouvertes toutes les fenêtres. Et Jaurès, sur sa banquette, et justement, assis devant une de ses fenêtres, le dos à la fenêtre. Et entre la rue et lui, il n'y a qu'un rideau. Il est là, il achève de dîner. Et tout à coup, une main soulève ce rideau. Et cette main tient un revolver. Deux coups de feu, à une seconde l'un de l'autre. Jaurès s'incline en avant, il s'affaisse doucement comme un homme qui va dormir. Alors un cri, un tumulte. Ils ont tué Jaurès! Ils ont tué Jaurès! Mais qui a tué Jaurès? Et pourquoi a-t-on tué Jaurès?
Par conséquent, la puissance narrative est une arme trop forte pour être laissée aux mains de ceux qui en font un usage peu scrupuleux. Voilà. Donc, il en va justement de l'avenir de notre discipline de réinventer des modes de réconciliation entre le récit et l'histoire critique.
Comment faire l'histoire et la transmettre? Patrick Boucheron propose une piste en transcendant les clivages, c'est-à-dire en arrêtant d'opposer récit et histoire sérieuse. On peut raconter l'histoire sans sacrifier la vérité historique, forcément nourrie de plusieurs voix et de plusieurs points de vue. Mais néanmoins, à quoi se heurte-t-on, Sébastien Ledoux?
Mais en tout cas, enfin, je pense que c'est fondamental de revenir justement à cette notion de récit comme une valeur heuristique de la transmission de l'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas à avoir peur et à avoir honte d'utiliser ce mode narratif du récit. Je pense qu'effectivement, de plus en plus d'historiens sont convaincus qu'il faut du récit parce que c'est une arme, justement, comme le dit Patrick Boucheron, extrêmement efficace pour la transmission de l'histoire, et que ce récit-là, il doit se démultiplier sous différentes formes. Par exemple, il y a un projet qui est en train de se mettre en place sur l'histoire de France à travers la bande dessinée, en partenariat avec, entre autres, Sylvain Vénère, l'historien Sylvain Vénère. Donc ça, c'est une forme, justement, de renouvellement de l'histoire de France à travers la bande dessinée qui est extrêmement prisée. Hein, c'est vraiment un mode d'appropriation très, très utilisé.
Alors, lors de votre journée de réflexion autour du récit roman national enregistré par RFI, vous avez insisté sur la violence des polémiques sur les réseaux sociaux et vous avez cité l'exemple de Laurent Wirth, inspecteur général de l'éducation nationale, groupe Histoire-Géographie en 2008. J'aimerais vraiment que vous reveniez sur ce qui s'est passé, Sébastien Ledoux, au sujet de l'introduction des civilisations africaines au programme de 5e.
Rapidement, en fait, c'est Laurent Wirth qui est donc au manège, je dirais, de la refonte des programmes scolaires et donc des programmes scolaires d'histoire donc au collège. Et donc, à travers une commission, il y a tout un travail dessus. Mais là, pour le coup, c'est Patricia qui saura mieux que moi expliquer tout cela. En tout cas, vous avez donc la décision d'introduire en classe de 5e les civilisations africaines. Donc, dans le cours d'histoire, et on a des réactions, dont je parlais tout à l'heure, de plus en plus violentes, qui vont même jusqu'à effectivement menacer de mort cet homme-là, qui est donc considéré comme une sorte de traître à la patrie, comme le fossoyeur d'une identité nationale. Et voilà, donc c'est là où effectivement je parle de la fachosphère, c'est là où on parle d'une opinion quand même qui s'est aussi radicalisée, et quelque part... les élections présidentielles avec ce second tour, hein, et donc avec quand même Marine Le Pen donc, au second tour, nous indique ça. Hein, c'est quand même un bon indicateur de cette radicalisation. Mais on n'a pas parlé d'une chose aussi depuis le début de l'émission, et je pense que c'est important, parce qu'on parle de nostalgie, on parle de concurrence des mémoires, etc. Mais ce qui est finalement latent à travers cette critique de la fin de l'histoire, d'une histoire qu'on n'enseignerait plus, ou mal, ou qu'on n'apprendrait pas suffisamment l'histoire nationale à nos enfants, ou qu'on ne l'aimerait pas assez, c'est une vision de la société française d'aujourd'hui. Hein, ça rejoint finalement une certaine vision de la société française qui refuse quoi ? Qui refuse la réalité de la société multiculturelle. Et donc c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que l'histoire de nos origines gauloises, l'histoire de cette tradition chrétienne, etc., renvoie à une nation, on va dire, fantasmée, qu'on voudrait revoir, qui ne reviendra plus, parce qu'aujourd'hui, effectivement, certains refusent cette société multiculturelle dans laquelle on vit.
Alors on comprend un petit peu mieux pourquoi, justement, lorsque Laurent Wirt donc propose l'introduction des civilisations africaines dans les programmes de 5e, ça crée une réaction aussi violente. Enfin, est-ce que ça veut dire déjà, primo, que cette question des civilisations africaines n'existait pas jusqu'à présent dans les programmes scolaires ?
Si, elle existait, mais elle est, enfin, c'est-à-dire qu'on a des contenus qui apparaissent, qui disparaissent. Donc les civilisations africaines et chinoises sont apparues dans les années 1970. Ça ne posait pas problème, alors ça disparaît, ça réapparaît, mais ça ne posait pas problème jusqu'en 2008 parce que c'était le dernier chapitre d'une classe. Donc on sait généralement que les enseignants n'ont pas le temps de finir le programme, donc on n'enseignait quasiment jamais ces civilisations-là. Là, ce qui a posé problème, c'est que l'ordre d'apparition des contenus, des savoirs scolaires a changé. Et donc, Louis XIV est passé en toute fin du programme de 5e. C'est ça qui a provoqué finalement cette passion. Parce que là,
on était sûr que les civilisations africaines allaient être abordées, enfin.
Pas nécessairement, puisqu'il était indiqué dans les textes introductifs au programme que l'enseignant pouvait traiter les chapitres dans l'ordre qu'il le souhaitait.
D'accord, en tout cas, ils avaient peut-être plus de chance. On voit à quel point c'est difficile, justement, cette ouverture sur le monde. Très passionnel. On connaît nos relations, bien sûr, avec nos amis africains, notre histoire commune. Cette question aussi, les politiques s'en sont emparés violemment.
À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois et ces Vercingétorix. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, le 19 septembre 2016 à Franconville, il était alors candidat aux primaires de la droite pour les présidentielles. Quelle lecture pouvez-vous faire de ce discours ? Comment le décryptez-vous du point de vue de la question de la nation dans l'histoire de France, Sébastien Ledoux ?
Alors déjà, on revient à l'obsession de l'origine ou des origines. Hein, c'est ça qu'on entend, hein, cette question obsessionnelle de l'origine et des origines, qui n'est pas forcément l'apanage d'ailleurs de la France. Hein. Je veux dire qu'on a aussi, si on veut faire du comparatif avec d'autres pays, on aura régulièrement dans les récits dits nationaux une référence à une origine. Donc on sait très bien qu'effectivement, dans les grands récits finalement qu'on essaye le plus commun, le politique cherche une origine commune. Donc on a cette obsession effectivement de l'origine avec les Gaulois. Là, évidemment, heureusement, l'enseignement scolaire de l'histoire propose autre chose, et d'une manière beaucoup plus complexe, hein, parce que les Gaulois, c'est aussi différents peuples qui sont et qui vivent en Gaule à ce moment-là. Donc on a quand même là justement une diversité déjà. Donc on a une obsession de l'origine, on a une obsession de l'unité, et puis on a une obsession finalement de l'amour de la nation. Or, l'enseignement de l'histoire, effectivement, en tout cas pour moi, n'est pas déterminé et ne doit pas entraîner l'amour de la nation.
Mais alors, Patricia Legris, l'enseignement de l'histoire doit être déterminé par quoi alors ?
Il devrait être déterminé par l'apprentissage de la curiosité, de l'altérité, du fait que de relativiser aussi l'histoire de France, de se rendre compte qu'il se passe d'autres choses ailleurs, donc de l'ouverture, de la curiosité.
Très riche réflexion que celle des historiens face aux politiques, des politiques qui ont le mérite de pousser les historiens à sortir de leur tour d'ivoire et à participer au débat citoyen de l'écriture de l'histoire à l'école. Et comme l'a rappelé avec subtilité le professeur d'histoire contemporaine Yvan Jablonka lors de votre journée d'études au Centre d'histoire sociale, l'école en France concentre toutes les critiques et tous les mécontentements.
Quand quelque chose ne va pas en France, c'est la faute de l'école. Le pays est en proie au doute ? Eh bien, c'est que l'identité nationale est en crise ou qu'elle est malheureuse. Il y a une émeute en banlieue, l'école a failli à sa mission. Un attentat, la mémoire nationale a été mal transmise. D'où ces sempiternels procès faits au collège, au lycée, aux professeurs. Les programmes et les manuels, et tout particulièrement en histoire, nourrissent toutes sortes d'arrière-pensées politiques et d'instrumentalisation. Voilà ce qu'on entend à droite. Trop de repentance. On n'arrête pas de se flageller. On s'excuse en permanence d'avoir conquis, d'avoir colonisé, etc. Et François Fillon critiquait ainsi l'enseignement de l'histoire à Sablé-sur-Sarthe en août 2016, je le cite. « Les jeunes Français ignorent des pans de leur histoire ou, pire encore, apprennent à en avoir honte. Il faut réécrire les programmes d'histoire avec l'idée de les concevoir comme un récit national. » L'enseignement de l'histoire devrait, au contraire, susciter la fierté de notre histoire. Prenons au sérieux ces reproches. Essayons de ne pas tout de suite les congédier comme ce qu'ils sont, mais prenons-les au sérieux quelques instants. Et regardons ce qu'on enseigne au lycée. Le programme de première, par exemple. Première question, la guerre au XXe siècle. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, guerre froide, nouvelle conflictualité. Deuxième question, la montée des totalitarismes, genèse, affirmation, dénazification, déstalinisation. Troisième question, la colonisation, la décolonisation. Quatrième question, la République au XIXe et au XXe siècle, la République et les femmes, la République et les ouvriers, etc. En effet, c'est un programme qui est psychologiquement très lourd. Est-ce que c'est de la repentance ? Ce n'est la faute de personne si le XXe siècle est un siècle de fer. Est-ce que c'est parce qu'on préfère la honte de Drancy à la gloire de Molière ? Non, bien sûr, non. Cela reflète surtout une prime aux contemporains. Ça reflète une prime aux contemporains, bien plus que des choix de repentance. Et vous voyez donc que le reproche est de nature essentiellement politique. L'évolution de l'école, en revanche, ne l'est pas. L'évolution des programmes reflète des phénomènes intellectuels, historiographiques, sociaux, sans parler du régime d'historicité, pour citer François Hartog, où nous nous trouvons. Les programmes accompagnent leur époque. Le glorieux roman national a fait place, en effet, à un récit ouvert, expliqué dans une perspective comparatiste, avec une multitude d'entrées thématiques. Il n'y a pas un récit, il n'y a pas un roman national, celui qu'il faudrait savoir, celui qui serait bon, celui qui vous donnerait 20 sur 20, une vision unique de la France. En revanche, il y a des outils critiques qu'on offre à l'élève pour lui permettre de synthétiser des connaissances et le futur citoyen de se forger son récit national personnel.
La voix de Yvan Jablonka, convié par nos invités à s'exprimer sur les enjeux de l'écriture de l'histoire et sur la question du roman national. Dans son dernier livre, Laetitia ou la fin des hommes, Yvan Jablonka soulève d'ailleurs la question de la responsabilité de l'historien. Chacun se fait son récit national, propose Yvan Jablonka. Est-ce que vous, Patricia Legris, qui avez fait des recherches justement sur l'enseignement de l'histoire à l'école dans le temps, vous avez constaté que finalement, la recherche historique, c'est-à-dire le meilleur des travaux des historiens, passe rapidement dans les manuels scolaires ou pas, où on est toujours sur la vision très nostalgique des manuels d'antan, du fameux Lavis.
Alors, il est vrai qu'on constate depuis, on va dire, les années 1980, que les travaux des historiens innervent à des degrés divers, mais innerve en tout cas les programmes d'histoire. On le voit par exemple avec effectivement la prise en compte de plus en plus grande des questions mémorielles, de thématiques comme la colonisation, la décolonisation. Donc ces nouvelles thématiques entrent à des degrés divers, mais entrent en tout cas dans les programmes. En revanche, avant les années 1980, c'était beaucoup moins le cas. On était vraiment sur une histoire qui était beaucoup plus politique. Et l'histoire qui se pratiquait par l'école des annales, à savoir une histoire sociale et économique, a mis de nombreuses décennies à pénétrer dans les programmes avec des crispations plus ou moins grandes.
Être historien, c'est développer son esprit critique, rappelle Yvan Jablonka.
Est-ce à dire que l'enseignement de l'histoire en France est au-dessus de tout reproche, de toute évolution ? Non, bien sûr, nous le savons tous en tant qu'historiens, en tant qu'anciens élèves, en tant que père et mère de famille. On peut faire des reproches. Par exemple, on parle beaucoup de valeurs républicaines, comme si la République était une espèce de grande entité qui flotte au-dessus des êtres, alors que, après tout, la Première République s'est caractérisée par la terreur, la Troisième par la colonisation. Bon, on sait bien que valeurs républicaines, c'est tout et n'importe quoi. On pourrait aussi dire que, en histoire, on parle beaucoup de France hexagonale. Bien sûr, pas pour la colonisation, évidemment. Mais ce n'est qu'en géographie et en première, je crois, qu'on parle des départements d'outre-mer, c'est-à-dire de la post-colonie. Par exemple, rien ou si peu sur la répression violente des grèves aux Antilles dans les années 60, rien, je suis bien placé pour le savoir, sur le transfert forcé d'enfants réunionnais dans les années 60 et 70 vers la métropole, alors que ce sont des épisodes fondamentaux de la Ve République qui nous renseignent sur le rôle de l'État, la politique gaullienne, la violence politique en démocratie ou encore le néocolonialisme. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de cadre intellectuel pour penser ces événements et en particulier le transfert de ces enfants réunionnais. Plus largement, on peut regretter aussi que l'ouverture thématique ait été parfois opérée au détriment de ce qu'on appelait il y a quelques années le socle. Trop de choses à enseigner ? Peut-être. Trop de thèmes ? Peut-être. Qui trop embrasse les catégories sociales et les anonymes, mal étreint le récit national ? Peut-être. Est-ce qu'il faudrait réintroduire de la chronologie ? Peut-être. Et je conclurai en disant qu'il est important, collectivement, socialement, de parler de l'enseignement en histoire, de la manière dont il se conçoit, dont il se mène concrètement au quotidien. Mais il faut que ces débats soient sereins, soient collectifs. Il faut garder en tête que l'enseignement de l'histoire porte les évolutions d'une société tout entière. Il faut aussi avoir en mémoire les différentes fonctions sociales que l'histoire assume, bien au-delà de l'élaboration d'un roman ou d'un récit national. Et enfin, bien sûr, il faut refuser toutes les instrumentalisations qui font violence à l'histoire et à son esprit, qui est avant tout de porter un regard critique sur les mondes passés et présents. Merci.
Merci Yvan Jablonka pour cette possible conclusion. Je me tourne vers vous Sébastien Ledoux. Il y a une dimension qu'aborde Yvan Jablonka lorsqu'il dit finalement toutes ces polémiques, tout ce débat autour de l'écriture de l'histoire reflète aussi le débat de la société. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension très importante dans une époque où il y a une politique mémorielle très très forte, où on passe son temps à commémorer les guerres mondiales, la Shoah, etc. Est-ce qu'il n'y a pas ce problème des concurrences des mémoires ?
Le problème des concurrences des mémoires, effectivement, est entré dans l'espace scolaire, finalement, depuis les années 1980 et dans les pratiques scolaires. Alors, il faut faire très attention, je dirais, il faut vraiment faire preuve de prudence, c'est-à-dire à la fois pas penser qu'à l'école, on est environné de concurrence mémorielle, parce que ce serait une image tout à fait fausse de la réalité des salles de classe, tout simplement.
Donc, concurrence des mémoires, ça veut dire qu'on parlerait plus de la mémoire de la Shoah, moins de la mémoire de l'esclavage, plus de la mémoire de la Première Guerre mondiale, moins des répressions, par exemple, des grèves aux Antilles, comme l'a cité Yvan Jablonka. C'est ça que ça veut dire,
oui, hein, la concurrence mémorielle dans le sens du devoir de mémoire. Je reviens sur le devoir de mémoire qui apparaît en fait dans les années 80 et 90.
C'est quoi ? Et donc vous êtes un spécialiste.
C'est en tout cas prendre en compte le statut de victime de certaines catégories justement de population qui ont subi des violences par le passé, prendre en compte ces violences-là et faire réparation à ces groupes de victimes par l'intermédiaire de commémoration et aussi justement de l'enseignement de l'histoire.
Patricia Legris.
Je voudrais rebondir et prolonger un petit peu ce que dit Sébastien et ce qu'on a entendu avec Yvan Jablonka. Il est question quand on parle d'histoire, donc des programmes. Les programmes en France, il faut insister dessus, sont des programmes qui sont obligatoires et nationaux. Et donc, ce qui se joue derrière ce qui est à transmettre dans les classes en histoire, c'est ce qu'on met dans la nation. Alors, Yvan Jablonka a beaucoup parlé là, des départements et des régions d'outre-mer, mais aussi, moi je pense aussi à l'histoire des régions, par exemple la Bretagne, mais également par exemple la Corse, le Pays Basque. Donc, ce sont c'est une narration, un récit qui est proposé, mais qui est avant tout centré sur l'Hexagone et sur une histoire qui est avant tout celle des grands hommes. Et c'est ça qui peut aussi provoquer des crispations, des concurrences mémorielles qui concernent différents groupes, différentes minorités.
Alors pour conclure, le président Macron semble plus s'intéresser aux fondamentaux de l'école primaire, lire, écrire, compter, qu'à l'enseignement de l'histoire. Est-ce que vous êtes rassuré ?
Moi, je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet par
Pourquoi ?
Rapport à... on a un président dit jupitérien qui quand même se place en tant que grand homme, et on a l'impression qu'il est effectivement à travers des exemples de grands hommes. Donc qu'est-ce que ça peut donner dans l'enseignement de l'histoire? On va voir. Je pense que voilà, je pense qu'il y a peut-être quelques inquiétudes à avoir là-dessus.
Patricia Legris.
Moi je voudrais citer Léo Ferré, laissons faire les spécialistes.
Merci à tous les deux, et n'hésitez pas à écouter La Marche du Monde pour une histoire partagée et mondiale. Depuis 15 ans, nous avons et nous allons continuer à donner la parole à de nombreuses voix, qu'elles soient anonymes ou célèbres. L'histoire à l'école, c'était une marche du monde réalisée par Sophie Janin, l'occasion de la journée d'études récits et romans national, enjeux et perspectives de l'histoire de l'enseignement en France, une conférence enregistrée au Centre d'Histoire Sociale à Paris en 2017. Vous qui aimez l'histoire du monde, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante marche.monde@rfi.fr, réagissez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.